Radio Prague, les informations. Bonjour, le taux de chômage a subi une légère hausse en juillet et s'élève désormais à 6,4%. Le président tchèque a été invité à prononcer un discours sur le réchauffement climatique à l'ONU. Et enfin, les brasseries tchèques ont produit un volume record de bière depuis le début de l'année. Le taux de chômage en République tchèque a légèrement augmenté en juillet, passant de 6,3% en juin à 6,4%. Ce chiffre a été annoncé ce mercredi par le ministère du Travail et des Affaires sociales. Il s'agit du deuxième taux de chômage le plus faible depuis juillet 2004. À la même époque l'an dernier, le taux de chômage était de 7,9%. Rappelons que selon le Bureau international du travail, organisme de l'ONU qui calcule en tenant compte d'autres données que le ministère du travail, le taux de chômage en République tchèque au cours du premier semestre de cette année s'est élevé à 5,3%, soit le taux le plus faible de ces 9 dernières années. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a invité le président tchèque, Václav Klaus, à prononcer un discours sur le réchauffement climatique à l'occasion d'une conférence internationale qui se tiendra fin septembre à New York, à la veille de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du château de Prague, Petr Hayek. Le chef de l'État tchèque qui s'apprête à prononcer, je cite, un discours très énergique, est connu pour sa critique sans concession des activistes environnementalistes qui mettent en garde contre les dangers du réchauffement climatique de la planète. Selon Václav Klaus, ces mises en garde hystériques constituent, je cite, une menace pour la liberté dans le monde et l'évolution normale de l'humanité. La société sud-coréenne Sejong, spécialisée dans la production d'amortisseurs et de pots d'échappement, a procédé mercredi matin à la pose symbolique de la première pierre de son usine à Karvina, en Moravie du Nord. Sejong entend investir près de 9 millions d'euros et employer à terme au moins 250 personnes. Sejong sera un des sous-traitants des constructeurs automobiles coréens Hyundai et KIA. Rappelons que Hyundai construit actuellement sa plus grande usine en Europe, également en Moravie du Nord, pour un investissement de plus d'un milliard d'euros qui devrait permettre de produire 300 000 voitures par an en 2011. Les brasseries tchèques ont produit un volume record de 9,94 millions d'hectolitres de bière au cours du premier semestre de cette année. Il s'agit d'une augmentation de 4% par rapport aux 6 premiers mois de l'année dernière. Ces chiffres ont été annoncés par l'Union tchèque des brasseries et des malteries qui estiment que les conditions météorologiques marquées par un hiver doux et l'arrivée rapide du printemps ont contribué à cette hausse. Toujours selon l'Union, plus de 20 millions d'hectolitres de bière devraient être brassés en 2007 et ce pour la première fois dans l'histoire. Météo, après une journée de mercredi plutôt ensoleillée, les nuages devraient être plus nombreux et entraîner quelques averses jeudi, jour de la fête des Romanes selon le calendrier tchèque. Les températures restent stables et se situent entre 14 et 18 degrés pour les minimales et entre 26 et 30 degrés pour les maximales. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information. Qui a eu le plaisir de vous présenter Guillaume Narguet. Merci de votre attention.
Faits et événements en République tchèque. Anna Kubišta.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Prague pour les émissions en langue française. Ravi de vous retrouver, nouvelle édition des faits et événements en République tchèque. La République tchèque souffre d'un manque de main-d'œuvre. Václav Richter nous en dira plus dans quelques instants. Alors que la saison de la chasse a commencé le 1er août, la République tchèque a un problème de gibier en surpeuplement. Mais leur chasse fait aussi débat. Nous évoquerons ensuite les Jeux Olympiques de Pékin, à exactement un an de leur lancement. À Prague, une organisation tchèque, Olympic Watch, continue de tirer la sonnette d'alarme sur les violations des droits de l'homme par l'Empire du Milieu. Une note plus légère pour finir avec notre série de l'été sur les touristes français qui se poursuit. Au nom de toute la rédaction de Radio Prague, je vous souhaite une agréable écoute. Les pays européens manquent d'employés qualifiés et la République tchèque ne fait pas exception. Les agences spécialisées cherchent des moyens pour attirer les spécialistes étrangers en Tchéquie et pour former la main-d'œuvre qualifiée tchèque. Václav Richter.
La croissance actuelle et les perspectives prometteuses de l'économie européenne sont les raisons principales de la demande croissante en spécialistes de diverses professions. En même temps, augmente le nombre de sociétés cherchant à recruter des candidats de plus en plus qualifiés. Le marché du travail actuel en République tchèque n'est pas en mesure de proposer aux employeurs suffisamment de candidats pour ces professions. Le directeur de la section tchèque de l'agence Robert Half International, Aleš Křížek, précise.
Actuellement, le plus grand déficit existe parmi les spécialistes ayant 2 ou 3 ans d'expérience, concrètement dans les métiers de l'informatique et de la comptabilité. Nous commençons à ressentir également le manque de cadres spécialisés dans la pharmacologie et dans l'administration pour les postes nécessitant la maîtrise de langues étrangères.
De nombreuses sociétés commencent à se rendre compte de la valeur réelle de leurs employés et les compagnies prospères cherchent à conserver leurs cadres.
De plus en plus d'employeurs s'adressent à des agences spécialisées dans ce genre de recrutement. Une autre façon de résoudre ce problème, que nous trouvons souvent en République tchèque, est d'utiliser les services appelés emploi par agence, méthode qui permet aux organisations d'emprunter les employés pour une période déterminée.
Actuellement, on parle beaucoup de système de talent management, c'est-à-dire d'un ensemble de technologies, de logiciels et de services pour permettre aux organisations de trouver, de recruter, de développer et de gérer les meilleurs talents disponibles. Bien que ce système n'ait été introduit en République tchèque récemment, il a suscité d'ores et déjà un grand intérêt.
Selon la dernière enquête, le nombre d'organisations qui utilisent ce système est considérable. Quelque 50% des organisations ont indiqué utiliser cette méthode pour former et conserver les employés. 35% des sociétés ne proposent cependant pas ce système à l'ensemble de leurs employés, mais uniquement à des personnes choisies qui occupent des postes importants.
La population européenne vieillit et l'Europe cherche les moyens de favoriser l'afflux des cerveaux d'autres pays et d'autres continents. Selon Aleš Křížek, ces initiatives en Europe en général et en République tchèque en particulier se heurtent cependant à des obstacles d'ordre législatif.
Le thème revient de temps à autre sur le devant de l'actualité. Il y a trop de gros gibier dans les bois et forêts tchèques. Tout le monde est d'accord sur le fait que les pouvoirs publics doivent faire face à ce problème, mais pas sur la manière à employer. Alain Slivinski.
En République tchèque, il ne devient pas rare de rencontrer des sangliers, des chevreuils, des daims et même des mouflons, à proximité et même dans les quartiers périphériques des grandes villes, même de la capitale Prague. Le surpeuplement en gros gibier devient alarmant, car les dommages causés à l'économie des forêts et à l'agriculture sont de plus en plus importants. L'association des propriétaires des forêts domaniales et privées vient de présenter une solution au problème qui a immédiatement suscité un tollé de protestations. De quelle solution s'agirait-il ? Tout simplement d'abattre tout le gibier qui vit dans les bois et forêts et conserver seulement celui qui se trouve dans les réserves de chasse. Le peuplement en gibier est beaucoup trop élevé et il est absolument nécessaire de le diminuer, dit Roman Chimek, membre de la présidence de cette association. Une affirmation qui n'est pas contredite par les chasseurs ou même les pouvoirs publics, concrètement le ministère de l'Agriculture. Diminuer le nombre de bêtes, oui, mais en conservant le bon sens, comme l'indique Jaroslav Kostečka de l'Union tchéco-morave des chasseurs.
Il existe des localités où le peuplement en gibier est très important. Dans ces localités, le gibier cause d'importants dommages. Pourtant, du point de vue général, ces localités ne sont pas nombreuses.
La proposition d'abattage du gibier présentée par l'association des propriétaires des bois et forêts devrait concerner les localités forestières où il y a plus de 50% d'épicéas, car ce sont ces essences qui sont les plus endommagées par le gros gibier. Cela concernerait la majorité des forêts tchèques, un projet que le ministère de l'Agriculture considère comme dénué de bon sens. En Tchéquie, le gibier ne vivrait que derrière des clôtures, comme aux zoos. À l'origine de cette polémique, un chasseur a tiré une biche et son faon. Triste peut-être, mais la chasse au gros gibier est ouverte depuis le 1er août et c'est le chasseur qui décide de sa proie en toute responsabilité.
Dans un an exactement, débuteront les Jeux Olympiques de Pékin. À cette occasion, l'organisation Olympic Watch a lancé un appel pour se remettre en mémoire que chaque jour, en Chine, les droits de l'homme sont bafoués. Quatre représentants de Reporters sans frontières qui tiennent une conférence de presse non autorisée devant le bâtiment du comité d'organisation des JO à un groupe de 8 membres du Congrès américain qui demande le boycott des Jeux Olympiques, à un an du coup d'envoi d'un des plus grands événements sportifs mondiaux, les voix se font de plus en plus entendre pour dénoncer les violations des droits de l'homme dans l'empire du milieu. En République tchèque également, où depuis 2001, l'organisation Olympic Watch se veut un organe de surveillance. Créée par trois anciens dissidents tchèques, dont Jan Hrmal, ancien vice-président du Sénat, Olympic Watch rappelle que la situation en Chine ne s'est pas améliorée. C'est ce qu'a expliqué Petr Kutilek, porte-parole d'Olympic Watch, au micro de Radio Prague.
Pour nous, ce qui est le plus important en ce moment, c'est la liberté des médias que Pékin a promis de respecter lorsqu'elle a posé sa candidature au JO sans pour autant tenir ses promesses. Il y a eu quelques signes encourageants toutefois. La manière dont les tribunaux décident d'appliquer la peine de mort a été légèrement modifiée. Une réforme du système des camps de rééducation est envisagée et Pékin a simplifié les règles pour les journalistes étrangers en Chine. Bien entendu, nous attendons les conséquences concrètes de ces mesures pour pouvoir dire que la situation en Chine s'est améliorée.
Et bien entendu, Olympic Watch entend que le bol d'air accordé aux journalistes étrangers concerne également les journalistes chinois. La préparation de cette grande messe du sport, qui devrait être placée en théorie sous le signe de l'esprit olympique, a néanmoins des retombées directes sur la vie des habitants de Pékin, comme le rappelle Petr Kutilek.
À Pékin, plusieurs centaines de milliers de personnes ont été chassées de leur maison, souvent sans compensation aucune. Le leader de leur manifestation pacifique, Ye Kuo-chu, a été condamné à 4 ans de prison et aurait été torturé. Pour nous, c'est un prisonnier de conscience et il doit être libéré. Son emprisonnement est une honte. Sinon, selon Amnesty International, il y a des abus dans l'utilisation des camps de redressement, justement en lien avec la préparation des Jeux Olympiques. Des personnes sont retenues sans procès et le gouvernement chinois tente de nettoyer la ville des personnes gênantes.
En 1980, alors que la guerre froide battait encore son plein, les Américains avaient boycotté les JO de Moscou qui lui avaient rendu l'appareil en 1984. Mais nous sommes en 2007 et les temps ont changé, explique encore Petilek.
Le sport est une source importante de revenus pour les sportifs, donc pour eux c'est problématique de boycotter les Jeux. En outre, aujourd'hui, le monde ne devrait pas fonctionner comme c'était le cas à l'époque, dans l'esprit d'un affrontement Ouest contre Est, même si la Chine le fait parfois. Un boycott organisé par les pays n'est pas la meilleure solution, mais les sportifs devraient pouvoir décider individuellement de leur position par rapport à la situation.
Nouvel épisode de notre petite série estivale dans laquelle nous donnons la parole aux touristes en visite dans la capitale tchèque pour qu'ils nous livrent leurs impressions, bonnes et mauvaises, sur le tourisme à Prague. Aujourd'hui, au micro d'Alexis Rosenzweig, trois jeunes françaises pas vraiment emballées par la gastronomie tchèque.
Je m'appelle Agnès.
Et vous venez de ?
Versailles.
Depuis combien de temps est-ce que vous êtes à Prague ?
Depuis vendredi.
Alors vous avez eu le temps de voir pas mal de choses peut-être. Est-ce que c'est quoi votre endroit préféré ?
J'aime bien le côté de Malastrana, les parcs derrière, après le pont Saint-Charles.
Le pont Charles.
Pont Charles.
Est-ce qu'il y a un endroit en particulier, un café, un resto, un musée qui vous a plu ?
On est sorti une fois au bar L'Enfer Rouge, c'était bien.
Est-ce que il y a des choses qui vous plaisent moins dans le tourisme à Prague ? Alors j'ai déjà demandé à quelques personnes qui ont trouvé quelques côtés négatifs dans le tourisme à Prague. Pour vous, vous êtes plutôt jeune, c'est quoi les côtés désagréables ?
C'est qu'il y a trop de touristes. Voilà. Il y a trop de touristes et ils sont tous dans les mêmes endroits. Et voilà, donc c'est pas très agréable de, par exemple, le pont Charles.
Comment vous faites pour les éviter alors ?
On les évite pas, mais on n'y va pas ou alors on n'a pas le choix.
Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Combien de temps vous restez encore et qu'est-ce qu'il vous reste à faire ?
On s'en va demain après-midi, donc on va se promener là, on va visiter encore un peu, enfin se promener.
Alors qu'est-ce qu'on ramène à Versailles quand on est à Prague pour les amis, la famille ?
Bah moi rien, mais elles se montrent plein de trucs.
Et vous ramenez quoi alors? C'est Léline et vous appelez?
Élodie.
Qu'est-ce que vous ramenez de Prague?
Déjà plein de photos parce que c'est une super belle ville et puis bah on va voir pourquoi pas un t-shirt, une casquette, des choses comme ça.
De l'absinthe, il y a des gens qui m'ont dit, des Français surtout, qui voulaient ramener de l'absinthe de Prague, c'est pas votre truc?
C'est ce qu'on a vu, non, moi ça m'intéresse pas plus que ça, mais on a vu en effet que l'absinthe ici c'était un bon souvenir apparemment.
Et vous alors, je peux vous demander s'il y a d'autres, à part le côté trop touristique, des choses qui vous ont moins plu ici à Prague?
La nourriture tchèque n'est pas spécialement à mon goût personnellement.
Ah, vous vous appelez?
Sophie.
C'est trop gras, c'est ça?
C'est même pas trop gras, mais ça fait vraiment lourd et on ressort vraiment lourd d'un repas tchèque.
Et les gens, le service, les serveurs dans les cafés-restos, pas de problème?
Bah justement, dans les coins touristiques, ils sont pas super aimables avec les touristes, mais dès qu'on s'éloigne un petit peu, ils sont super gentils et ils apprécient qu'on essaye de placer quelques mots de tchèque au milieu. Donc.
Et alors justement, comment vous faites pour vous éloigner un peu des sentiers battus?
On a essayé avec le tramway de voir où il y avait justement un peu moins de gens et puis on s'éloigne un peu à travers les petites rues, là où il n'y a pas grand chose à visiter, mais plus pour se balader.
Et comment est-ce que vous avez trouvé votre hôtel, ou je ne sais pas, où est-ce que vous restez la nuit?
On est dans une auberge de jeunesse, donc on a trouvé sur internet.
Avant de venir à Prague?
Voilà, c'est ça, avant, oui.
Et ça va, vous êtes satisfaite?
Ah oui, très bien, l'auberge est bien située, les gens très sympas, et ça c'est bien.
Alors, quand vous rentrez en France, qu'est-ce que vous allez recommander à quelqu'un qui voudrait venir à Prague? Un endroit en particulier, faire un truc spécial, aller ailleurs qu'à Prague?
Bah, je pense de faire un peu comme nous, de voir ce qu'il y a à visiter, les choses touristiques, mais aussi d'aller voir un peu ailleurs, là où il y a moins de touristes, et un autre côté de Prague qui est aussi très sympa.
C'est la fin des faits et événements en République tchèque. On passe maintenant à la rubrique historique, tout de suite sur Radio Prague.
Chapitre de l'histoire tchèque. Jarka Gisubelova.
Bienvenue à toutes et à tous à l'écoute. Nous vous proposons aujourd'hui la rediffusion d'un entretien avec le professeur František Šmahel, médiéviste et uscitologue, auteur d'un ouvrage remarquable témoignant d'une liaison étroite entre l'histoire tchèque et française au XIVe siècle. Cet ouvrage s'appelle « Le voyage de Charles IV en France ». Il sera le thème de cette page d'histoire. Le livre raconte le dernier voyage de Charles IV, empereur germanique et roi de Bohème, sa seconde patrie, où il a été élevé entre 7 et 14 ans, confirmé du nom du roi de France Charles IV, et où il a discerné les finesses les plus exquises des rites de couronnement et autres liés à la cour, ce qui lui a rendu service plus tard, dit le professeur Šmahel dans son livre. J'étais curieuse de savoir ce qui l'a inspiré pour l'écrire.
Ce travail est dû, comme cela arrive parfois, à un concours de circonstances, lorsque vous trouvez un grand thème indirectement. Cela m'est arrivé à la Bibliothèque britannique. Lors de l'étude des manuscrits précieux provenant de la collection royale française, c'était les grandes chroniques de France, j'ai trouvé les enluminures sur le voyage de Charles IV. J'ai connu le manuscrit fondamental de la Bibliothèque nationale de France, mais tout d'un coup, j'ai vu deux, trois variantes plus courtes, mais d'autant plus remarquables. Et c'est ainsi que tout a commencé. Je dois remercier pour son aide précieuse le professeur Maurice Aymard, directeur de la Maison des sciences de l'homme à Paris, où j'ai bénéficié de plusieurs séjours absolument indispensables pour mon travail. Aujourd'hui, on ne réalise certes pas des découvertes qui ébranleraient le monde, mais il est toujours possible de trouver des détails qui complètent la mosaïque. Un exemple en est ce livre qui, à mes yeux, est important puisqu'il rend hommage à la France du XIVe siècle. Les relations tchéco-françaises n'ont jamais été aussi étroites qu'au XIVe siècle, justement. Et Charles IV a été un personnage incontournable de ce siècle, tout comme des deux grands sommets de la seconde moitié du XIVe siècle, dont celui avec Charles V, roi de France, fut un événement européen.
«
Le voyage de Charles IV en France, commencé en novembre 1377, a été le tout dernier voyage diplomatique à l'étranger qu'il a entrepris. Comme on peut le lire dans le livre, il avait trois objectifs principaux. Charles IV a voulu se rendre sur les lieux pieux, à la basilique Saint-Denis et à la Sainte-Pelle. Pour le collectionneur d'objets de dévotion et de reliques que Charles était, cette visite avait une importance spirituelle énorme. Deuxième raison, Charles IV, parti pour la France, gravement malade, souffrant de la goutte, espérait trouver une guérison dans l'abbé Saint-Maur des Fossés, réputé pour ses méthodes de traitement. La troisième raison était de présenter son fils, Venceslas IV, roi de Bohême, à ses parents proches en France, au roi Charles V, qui était le neveu de Charles IV. On écoute František Šmahel.
To byl no, taky velký význam pro jednak francouzskou politiku a jednak lembourskou, neboť Francie, jak víme.
Cela avait une importance énorme pour la politique française et luxembourgeoise, car comme on le sait, la France était alors en conflit grave avec l'Angleterre, et pour la cour de France, ce voyage était une confirmation des engagements alliés de la part de Charles IV. Et en revanche, au regard de la politique luxembourgeoise, il s'agissait d'entrevues de première importance concernant les trônes vacants et les alliances de mariage en Hongrie et en Pologne.
Charles IV est parti pour la France en novembre 1377. Au Noël de la même année, il a franchi la frontière de la France. Cette date a joué un rôle important, explique l'auteur du livre « Le voyage de Charles IV en France ».
Le protocole diplomatique de la France n'admettait pas que l'empereur lise sa messe de Noël vêtue de la chasuble impériale. Du point de vue de la souveraineté de la France, ce serait aussi inconvenant que si le roi de Bohême entrait à Paris sur un cheval blanc, ce privilège étant réservé au roi de France uniquement. Voilà des détails qu'il est possible de découvrir encore aujourd'hui grâce aux recherches.
Les négociations officielles de Charles IV en France ont eu lieu entre le 4 et le 14 janvier 1378. Leur point culminant est un banquet donné le 6 janvier à l'Épiphanie au palais de la Cité à Paris en présence de trois rois, Charles V de France, Charles IV, empereur germanique, et son fils Venceslas IV, roi de Bohême. Comment le voyage de Charles IV s'est-il terminé? On écoute František Šmahel.
On se vracel do Prahy přes některá říšská města. Praze pak v listopadu 1770.
Sur le chemin de son retour, Charles s'est encore arrêté dans plusieurs villes de l'Empire. Il est mort peu après, en novembre 1378. En dépit d'une amélioration passagère de son état de santé à l'abbaye de Saint-Maur, qui était une amélioration plutôt psychique, Charles ne s'est plus remis de ses maladies. Il est décédé à Prague un an après être parti pour son dernier voyage, l'ayant conduit en France.
La dynastie des Luxembourg sur le trône de Bohême s'est éteinte avec le roi Sigismond, fils de Charles IV. Après la mort de son frère Venceslas IV, Sigismond manifesta de l'intérêt pour la couronne de Bohême. Mais c'était déjà le début des guerres hussites et les hussites refusèrent d'accepter Sigismond, empereur germanique romain, comme roi. Sigismond mourut en 1437 en quittant la Moravie.
Voilà, les émissions en langue française de Radio Prague s'achèvent. Merci de votre fidélité. Retrouvez les événements et les rubriques sur notre site web www.radio.cz. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition. Ahoy et à bientôt. Thank you.
listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 7 hours UTC on 9880 and 11600 kilohertz, at 9 hours on 9880 kilohertz, at 10:30 hours on 11665 kilohertz, at 13 hours on 13580 kilohertz, and at 16, 17 and 20 hours on 5930 kilohertz. Listeners in Northern Europe can hear us at 10:30 hours on 9880 kilohertz. Listeners in Central and West Africa can tune in at 17 hours on 17485 kilohertz and at 21:30 hours on 9410 kilohertz. Listeners in East Africa can hear us at 16 hours UTC on 17485 kilohertz. Listeners in the Middle East can listen to Radio Prague at 3:30 hours UTC on 9445 kilohertz. Now those of you tuning in North America can hear us at 21:30 hours UTC on 11600 kilohertz, at 22:30 hours on 7345 and 9415 kilohertz, also at 0 hours on 7345 and 9440 kilohertz, at 1 hour UTC on 6200 and 7345 kilohertz, and finally at 3 hours on 7345 and 9870 kilohertz. Listeners in Southern Asia can tune in at 10 hours on 21745 kilohertz and at 13 hours UTC on 17540 kilohertz. Listeners in South and East Asia and Australia can tune in at 20 hours on 11600 kilohertz.